Nous allons vous faire différentes présentations au cours de cette table ronde pour évoquer l'accompagnement des personnes âgées à domicile, notamment sur les territoires. Alors, il y aura différentes interventions. Moi, je vais commencer. Je suis Sébastien Père, je suis maître de conférence en gestion à l'Université de Caen. Je vais plutôt vous faire une présentation générale un petit peu rapide pour introduire la question. Et puis, je laisserai la parole à Corinne Bebin, qui se représentera, qui est maire adjointe déléguée aux affaires sociales et à la santé et vice-présidente du CCAS sur la commune de Versailles, à la ville de Versailles. Et également, après, Gisèle Nambion-Varny, qui est maîtresse de conférence en sociologie à l'UT de Bobigny et à l'Université Paris 13. Et puis, naturellement, l'idée, c'est d'avoir quelques échanges en fin de séance. Si vous avez des commentaires ou des questions particulières aux différentes présentations. Alors, pour nous mettre un petit peu dans le cadre finalement de la table ronde, je vais utiliser la zapette. L'idée, c'est simplement de vous redonner quelques éléments vis-à-vis du vieillissement de la population française et puis les quelques questions que le vieillissement de la population pose aujourd'hui sur les territoires. Alors, la première donnée, je suis allé rechercher finalement l'espérance de vie moyenne en France, qui est une donnée parmi d'autres, hein, c'est pas forcément la plus pertinente. En plus, je pense que Gisèle pourrait en reparler. Quand vous regardez un petit peu les éléments, alors juste pour m'amuser, je me suis dit que vous seriez un peu fatigué, comme moi en fin d'après-midi. Tiens, où sont les hommes, où sont les femmes? J'adore faire ce petit jeu parce que ça fait toujours rire les femmes, je sais pas pourquoi. Bon, la réponse est assez simple. À votre avis, où sont les hommes? En haut, vous avez gagné, c'est quand même assez facile à retrouver. Parce qu'il y a une indication, vous avez les années 30, enfin les décennies 30-45, vous voyez la première ligne qui concerne les hommes, on voit l'espérance de vie qui baisse, parce que malheureusement, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Globalement, si vous regardez, que ce soit les hommes et les femmes, alors on voit quand même assez vite que ces dames ont une espérance de vie plus importante que les hommes. Et sur les décennies 90-2000, on voit quand même un rapprochement de l'espérance de vie moyenne à la naissance, c'est-à-dire l'âge auquel on pourrait espérer finalement atteindre en moyenne à partir de son année de naissance, se rapprocher entre les hommes et les femmes, même s'il y a encore des écarts assez importants. Hein, pour 2010, si vous regardez bien, il y a quasiment presque une décennie encore d'écart. Sur les prochaines on va dire projections de population en fonction des années de projection qui ont été portées, bon, on voit quand même que les hommes vont arriver en moyenne autour de 88-90 ans et puis les femmes vont dépasser les 90 ans d'espérance de vie. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'au fur et à mesure des décennies on anticipe le fait que la population française vivra plus longtemps. Bon, on pourrait se poser la question de comment on va vivre sur ces âges-là. Ça sera une partie des interventions. Le deuxième chiffre, parce que là aussi, je ne veux pas vous bombarder de chiffres ou transparents en introduction. Là aussi, je me suis rebasé sur des projections de population, notamment de l'INSEE, où il y a eu des travaux qui ont été faits en 2010 et plus récemment en 2016, pour justement essayer de voir quelle serait l'évolution de la population en général dans notre pays. Grosso modo, si vous regardez les chiffres alors j'ai mis aujourd'hui, ce qui n'est pas tout à fait aujourd'hui, hein, c'est 2015, on est à peu près à un quart de la population qui a moins de 20 ans, et on a déjà un quart de la population qui a 60 ans et plus. Et les 75 ans et plus représentent à peu près 5 millions, sur les chiffres qu'on avait sur 2015, à peu près 5 millions de personnes. Sur les anticipations et projections qui sont faites, alors vous avez demain, c'est 2030, donc en gros dans une quinzaine d'années, on est à peu près au même niveau pour les moins de 20 ans. On voit quand même que les 60 ans et plus commencent à augmenter et être plus nombreux a priori que les moins de 20 ans. Et après, vous avez des projections sur 2060 et 2070. Alors, pour 2060, ne vous inquiétez pas, s'il y a deux chiffres, dont un avec un astérisque. C'est les deux projections qui ont été faites en 2010 et en 2016, c'est-à-dire l'an dernier. Là, grossièrement, on attend sur la période 2060, on va avoir un léger tassement des moins de 20 ans. Et puis, un prolongement du vieillissement de la population avec les plus de 60 ans et en particulier les 75 ans et plus qui vont augmenter. Et c'est en particulier les 75 ans et plus dont la proportion dans la population va a priori sensiblement augmenter, puisqu'on passerait grosso modo d'une douzaine de pourcents en 2015, en 2030. Oui. Est-ce que c'est mieux comme ça? Merci. On passerait d'une douzaine de pourcents en 2030 à 16, 17, 18% sur les années 2060. Et puis les dernières projections pour les années 2070, là aussi à prendre avec précaution, hein, parce que j'ai pris un des scénarios démographiques, j'ai fait un scénario à la normande, vous aviez un scénario bas, un scénario haut en termes de notamment de natalité, j'ai fait le normand parce que je suis sur une université normande, donc j'ai pris celui du milieu, et a priori c'est plutôt celui qui est en train de se mettre en œuvre. On arriverait quand même à peu près à 35% de la population qui aura au moins 60 ans et plus, et 18% de la population qui aurait 75 ans et plus. Donc ça fait quand même, grossièrement, je ne vous ai pas ressorti tous les chiffres, mais autour de 2030, on pourrait atteindre au moins 20 millions de personnes qui auraient au moins 60 ans, et à peu près 8 à 10 millions de personnes qui auraient 75 ans et plus, sur une population de 70 millions d'habitants. Donc ça commence à être quand même très significatif et à être significatif. Alors l'idée de la table ronde, elle vient en fait de ce questionnement sur le vieillissement de la population, et aussi de la publication d'un ouvrage dont on reprend en fait la thématique au cours de cette table ronde. L'idée, en fait, pourquoi on a sorti cet ouvrage collectif il y a quelques mois, qui a réuni à la fois des enseignants-chercheurs et des professionnels, c'est parce qu'on est peut-être, au moins pour moi et quelques-uns des collègues, on est quand même à un moment donné à une étape, je pense, en termes de politique publique vis-à-vis de la prise en charge du vieillissement, puisqu'en 2015, on a eu la promulgation de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, avec sa mise en œuvre très rapide en début d'année 2016. Et grossièrement, on voit bien que depuis les années 2000-2005, il y a une action des pouvoirs publics pour essayer de structurer un secteur à l'origine des services à la personne. Et puis on commence maintenant à évoquer beaucoup plus une filière ou un secteur de la silver economy, et les différentes interventions politiques et les différentes lois qui ont été mises en place depuis 2005, elles ont essayé de chercher, dans un premier temps, de travailler sur, je sais pas si on voit, non, on ne voit pas, développer plutôt la demande, la solvabilité finalement de la demande en termes d'intervention à domicile. Il y a eu des réflexions et des actions pour renforcer l'offre de produits ou de services pour les personnes âgées notamment. Il y a eu un questionnement en 2005 avec le plan Borloo sur la professionnalisation des intervenants. Un certain nombre d'évolutions réglementaires avec la loi SV notamment, puisqu'on est passé sur un autre régime d'autorisation avec cette loi. Et puis la volonté plus récente quand même de la loi SV, c'est quand même de favoriser ou de permettre de favoriser l'autonomie à domicile avec un certain nombre d'évolutions réglementaires. Et pour ne le citer celui-là, la volonté aussi de développer ou de pousser un petit peu l'expérimentation de ce passage, c'est-à-dire des services qui seraient à la fois du soin infirmier et puis de l'aide à domicile, là aussi pour les personnes âgées. Bon, je passe rapidement. Quels sont un peu les enjeux, les perspectives qu'on peut avoir, les questionnements qu'on a vis-à-vis justement de ces évolutions, à la fois des politiques publiques et puis de la démographie de notre pays? Alors l'idée, c'est pas de faire un cours et puis de vraiment d'avoir une vision d'ensemble, parce qu'il faudrait une journée, tant les questions sont compliquées. Bon, la première question quand même qui se pose, c'est comment on va pouvoir aujourd'hui et dans les décennies qui viennent accompagner un volume beaucoup plus important de personnes âgées, en particulier pour les territoires les plus ruraux, parce qu'il faut quand même pas oublier que la métropole, c'est à peu près grosso modo 60%, 65% de territoire rural. Donc la question se pose d'avoir des professionnels qui puissent intervenir sur tout un département, par exemple. Et la question qui se pose aussi sur l'avancée en âge et le vieillissement, c'est d'être en capacité aussi de différencier ou d'individualiser à un moment donné des accompagnements, parce que tout le monde ne sera pas forcément dépendant ou ne sera dépendant qu'à dans des situations très spécifiques parfois. Donc vous pouvez avoir, alors maintenant on parle moins de personnes âgées que de seniors avec la logique de Silver Economy, où vous avez des personnes à 60 ans qui sont quand même en bonne santé par rapport à ce que ça peut être pour nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, qui ont pour certains du pouvoir d'achat. Il suffit de regarder par exemple tout ce qui est croisière Aujourd'hui, ça marche du feu de Dieu. Bon, tant mieux pour Saint-Nazaire, ça fait de la construction navale. Mais c'est aussi parce qu'on a une population qui est en capacité de se payer ce type de service et puis qui a un petit peu de temps libre pour pouvoir le faire. Alors, c'est vraiment anecdotique, mais c'est un petit exemple. Et puis aussi, on a quand même des maladies beaucoup plus chroniques qui arrivent avec des questions de mise en dépendance des personnes et avec notamment des situations assez compliquées telles les personnes Alzheimer. Où là, vous avez des personnes âgées qui vivent encore en couple parfois et qui posent des difficultés à l'autre aidant ou à l'autre membre du couple. Donc on a des situations qui peuvent être extrêmement variées et avec des problématiques très liées souvent au territoire. Parce que c'est pas la même chose d'être un petit peu dépendant, pardon, en plein centre de Paris, si vous voulez être au fond de la Bretagne, à, je dis n'importe quoi, trois quarts d'heure de la plus première grande ville, mine de rien. Donc ça pose déjà aussi une logique d'égalité sur les prises en charge sur les territoires. Ça pose aussi la question de la... Ça, je pense que ça intéressera Madame Bebin. C'est est-ce qu'on arrivera ou est-ce que l'offre aujourd'hui en termes d'établissements sanitaires ou médico-sociaux comme les EHPAD va permettre à un moment donné d'accompagner justement ou prendre en charge ces personnes. Ça pose aussi quand même la question du secteur hospitalier qui a quand même connu un certain nombre d'évolutions et de réformes. Et notamment pour les territoires ruraux, j'ai pris un exemple, c'est l'âge moyen des médecins en Normandie. Alors ça doit être les chiffres qui concernaient la Basse-Normandie, si ma mémoire est bonne. Grossièrement, on va avoir un double problème, c'est à la fois accompagner un vieillissement de la population et grossièrement une population médicale qui va se faire de plus en plus rare. Avec là aussi des départs à la retraite assez conséquents. Alors bon, quand vous êtes là aussi, par exemple à Lyon, vous aurez moins de difficultés à trouver des médecins, quoique ça dépend des spécialités. Alors quand vous êtes comme moi dans l'Orne et que la première commune de 200 000 habitants elle est à une heure de route, là il va y avoir une vraie difficulté pour les années qui viennent. Ça pose aussi les questions du pilotage ou du parcours, parce qu'on parle beaucoup de parcours santé, de parcours de soins. C'est-à-dire comment en fonction de l'évolution des personnes et de leur avancée en âge, on va pouvoir s'assurer d'un suivi tout au long de leurs difficultés ou de leur avancée en âge. Donc là aussi, ça renvoie aussi aux populations médicales. Et puis, des maladies ou des pathologies qui ne sont pas nouvelles, mais qui vont être, on pense, ou pourraient être plus présentes, comme l'Alzheimer, comme le Parkinson, là aussi, qui posent des questions en termes de prise en charge, parce qu'il va falloir se rapprocher, notamment des populations. Une deuxième question, c'est le rôle aussi des familles. Parce que si on fait vraiment très vite et d'une manière caricaturale, il y a 50 ans, en gros, les personnes âgées étaient plutôt prises en charge par les familles et l'environnement. Parce qu'on avait aussi l'habitude, parfois dans le monde rural notamment, à vivre aussi en famille ou pas trop éloigné d'un certain nombre de parents. Là, j'ai ressorti un petit graphique qui est intéressant hier soir. On voit bien que l'évolution aujourd'hui des ménages en France entraîne de plus en plus de personnes isolées. De mémoire, grosso modo, je crois qu'en 2013, il y avait à peu près 9 millions de personnes seules en France. Donc ça pose quand même la question de la solidarité, entre guillemets, familiale, et puis aussi celle de l'évolution de la mobilité des enfants. Comment on va pouvoir prendre en charge un parent dépendant si vous habitez 500 km, 600 km de vos parents? C'est une vraie difficulté, d'autant plus si on n'a pas forcément envie d'accueillir son parent à la maison, comme ça pouvait se faire autrefois. Le deuxième point aussi, alors, ce que j'ai un peu abordé, c'est effectivement l'éloignement des enfants. Le fait qu'on ait des modes d'habitat qui soient assez différents. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de monde qui vit en zone pavillonnaire ou qui ont une maison individuelle. Ces logements, quand ils ont pris un peu d'âge, ne sont pas forcément très adaptés à recevoir des personnes dépendantes ou des personnes âgées. La question aussi de la famille, c'est celui du reste à charge. C'est qui, à un moment donné, va pouvoir payer, en sachant que on est quand même, en fonction des territoires, là aussi c'est une moyenne, hein, mais la médiane des revenus des ménages en France en 2014, c'était 20 000 euros. Bon, ça veut quand même dire qu'une partie de la population n'aura pas forcément des moyens gigantesques financiers pour pouvoir prendre en charge leurs parents. C'est toujours la question qu'on peut souvent entendre sur la prise en charge dans les EHPAD. Le reste en charge dans les EHPAD, c'est quand même aussi un questionnement depuis assez longtemps. Bon, je ne vais pas tout vous passer parce que je suis un très grand bavard et puis le temps passe vite. Le point qui se pose, on est en train de nous reparler encore une fois de la réforme des retraites. c'est celui de comment on va pouvoir financer finalement un effort assez conséquent vu le vieillissement de la population qui nous attend. Donc j'ai trouvé un petit graphique que j'ai repris à un moment donné. C'est aussi, il va y avoir quand même la question de la durabilité, du fait que ça soit supportable pour les générations qui viennent, parce qu'on est plus sur une période de plein emploi, comme ça a pu être le cas auparavant, donc à un moment donné, il se posera aussi cette question-là. Et il y a quand même aussi un questionnement sur le maintien à domicile, parce qu'il y a souvent des sondages qui sont réalisés. Grossièrement, on est souvent entre 70 à 80% des répondants qui vous disent « je veux rester chez moi aussi longtemps que possible ». Alors il y a effectivement probablement cette volonté, mais il ne faut pas se le cacher, c'est aussi un avantage pour les politiques publiques, parce qu'on le sait bien, en termes de financiers, ça coûte entre guillemets moins cher de maintenir les gens chez eux qu'une journée ou des journées d'hospitalisation à l'hôpital, parce que ça tourne extrêmement vite. Et ça pose un deuxième questionnement, c'est pour pouvoir rester chez soi le plus longtemps possible, c'est est-ce que les logements aujourd'hui sont adaptés et comment on peut faire pour les faire évoluer. Donc ça, c'est tout ce qui tourne justement autour de l'émergence de la filière silver economy avec des outils techniques, technologiques, puis aussi des anticipations en termes de construction. Et puis un des derniers points, c'est il y a un adage en France qui est toujours le suivant, c'est il vaut mieux prévenir que guérir. Mais on est sur une thématique qui est quand même compliquée. Donc tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire de la prévention sur la dépendance. C'est évident à dire, ça l'est moins pour le mettre en pratique aujourd'hui. Donc ça aussi c'est un des questionnements et la loi ASV a commencé un petit peu à travailler ces points-là. Et puis le dernier qui concerne un peu plus les professionnels peut-être et aussi les enseignants ou chercheurs qui réfléchissent à ces questionnements, c'est celui qui tourne autour de la coordination, parce que si on parle à un moment donné de parcours et d'accompagnement des personnes, il va falloir aussi, il faut travailler sur la coordination des différents intervenants au domicile et sur un territoire donné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile d'avoir des remontées cohérentes d'informations de quelqu'un qui sort par exemple de l'hôpital lorsqu'il habite à 30 ou 40 km de l'hôpital où il a été hospitalisé. C'est souvent le cas en Normandie parce que le CHU il est à Caen. Quand vous habitez à Nanson, vous êtes à 120 km du CHU, donc ça fait quand même un petit peu de distance. Donc il y a un certain nombre de questionnements et d'expérimentations qui tournent autour justement de comment on va pouvoir s'assurer et suivre finalement les différents accompagnements et faire en sorte que, par exemple, une infirmière qui fait un soin à une personne âgée, si elle voit quelque chose, un événement intéressant ou une situation problématique, comment on la fait passer, par exemple, à un service d'aide à domicile et où on alerte les parents s'ils sont éloignés. Voilà un petit peu pour se chauffer, pour se lancer. Je propose de donner la parole maintenant à Corinne Bebin qui va pouvoir présenter justement une expérimentation sur la commune de Versailles. Merci de votre attention.
Alors, je vais vous parler d'une expérimentation que nous avons menée sur les territoires et qui est partie des constats qui viennent de vous être présentés. Alors, je ne vous raconterai pas toute l'histoire parce qu'elle a commencé il y a plus de 5 ans maintenant. Je vais essayer de vous donner quelques, je dirais, grands axes sur lesquels nous avons travaillé et ce à quoi ça conduit. On a résumé ça dans un article. C'est l'article, en fait, qui vous le détaillera. Moi, je vais juste vous montrer les points d'entrée que nous avons pris. Alors, tout d'abord, nous sommes sur le territoire de Versailles. Le territoire de Versailles, c'est l'ouest parisien. C'est une commune de 90 000 habitants, à peu près, qui a vraiment une image très particulière et notamment plutôt de gens aisés et pas forcément particulièrement vieillissants. Alors, pour nous, c'est avant tout un bassin de vie. Versailles s'inscrit quand même dans une communauté d'agglomération de 230 000 personnes. Et on assiste exactement dans l'illustration du quotidien à ce qui vient de vous être présenté avec une particularité, c'est que sur notre territoire, c'est renforcé. C'est-à-dire que les chiffres ont très vite parlé chez nous. Nous, l'augmentation du nombre de plus de 60, enfin, les plus de 75 ans, c'est dès maintenant plus de 17%. Et en 2030, ça sera le quart de la population. Donc pour nous, c'est une problématique qui est vraiment prégnante pour des élus locaux que nous sommes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les projections aussi lorsqu'on a fait l'analyse, c'est qu'on aurait presque 50% de plus de personnes qui seraient atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles de la cognition. Donc c'est pour nous des préoccupations cibles absolument déterminantes dans la politique locale qu'on veut mettre en place. On était parti également d'un aménagement du territoire où on a regardé un petit peu l'offre que nous avions sur le territoire, qui n'était pas tellement à domicile, mais davantage sur tous les outils que les lois, notamment le Code de l'action sociale, mettaient à notre disposition. Et on a vu qu'on était assez doté. On avait donc une unité hospitalière de gériatrie avec un bel hôpital, de l'imagerie, enfin tout ça, des places de SSR, des places d'accueil de jour, des lits de moyen de séjour. En fait, c'est deux consultations mémoire qui ont été ouvertes, un centre d'accueil de jour, 48 lits du SLD, donc c'est des soins de longue durée, 16 lits de soins palliatifs et 6 EHPAD pour plus de 800 places. Donc, vous voyez qu'on avait un dispositif qui était plutôt favorable à l'accueil de ces personnes vieillissantes et qui pouvaient être dépendantes. Et pourtant, quand on a analysé notre territoire, à l'aune des études qui ont été menées, eh bien, on s'est rendu compte que, en fait, ces outils-là ne répondaient pas aux prospectives et aux demandes des personnes qui habitaient sur notre territoire. Et on a regardé des choses qui étaient vraiment directement liées à l'activité de la ville, la vie locale. Et là, on s'est rendu compte que les APA, 53% étaient des APA à domicile, que 33%, donc plus d'un tiers des plus de 65 ans, utilisent les titres de transport public. On a des titres de transport public qui sont dédiés aux seniors. Ils sont, c'est pas des passes Navigo, mais ils sont soit gratuits, soit avec des prix décotés. Et puis surtout, je suis déléguée aux personnes âgées, et j'ai la joie, je peux le dire, de fêter plusieurs centenaires par an. Et en fait, j'en fête quasiment une par mois. Pour l'anecdote, j'en suis à ma troisième centenaire à domicile. Je suis à mon troisième centenaire, mais en hébergement. Et j'attends qu'une chose avant la fin de mon mandat, c'est de trouver un centenaire à domicile. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu pour la... Mais ça reflète bien à la fois la réalité de notre territoire et puis une problématique tout à fait nouvelle pour nous. L'autre chose qui nous a frappé, c'est bien sûr l'obligation pour une commune de tenir un registre des personnes fragiles. Vous savez, c'est dans le cadre des plans canicules, plans grand froid. Et là, moi j'ai vu, quand j'ai interrogé les services, qu'on avait une augmentation majeure des gens qui demandaient à être inscrits dans ce registre des personnes fragiles. Alors c'est vrai que la ville offre des activités pour les personnes qui sont inscrites, et notamment des visites à domicile, des permanences téléphoniques, on les appelle régulièrement, selon ce qu'ils veulent, hein. C'est tout à fait à la demande de la personne, mais on garde un lien avec ces personnes-là. On a 629 abonnés à la téléassistance, des activités de maison de quartier, on a plus de 1000 personnes âgées inscrites. Ça, c'est plutôt la catégorie des personnes des plus de 65 ans, mais qui sont encore très autonomes et très encore actifs et présents dans la ville. Et là aussi, j'ai eu une augmentation majeure des signalements. J'ai eu 177 signalements en 2015, dont des pathologies de Diogène. Et ça, j'en ai de plus en plus. Et ça, pour moi, c'est un indicateur tout à fait clair de cette demande de maintien à domicile et de cette carence de la veille qu'on peut avoir ou des dispositifs de préoccupation des personnes à domicile. Alors ça s'explique sur le territoire de Versailles de manière assez naturelle, j'ai envie de dire. Enfin, naturelle, c'est jamais naturel. Mais on a beaucoup... Versailles, quand même, est un patrimoine ancien, peu accessible. Nous avons des immeubles qui sont des très vieux immeubles qui ne sont pas dotés d'ascenseurs. Et donc, vous avez des personnes âgées qui n'avaient pas forcément des revenus très importants, mais qui habitaient au cinquième étage d'un immeuble du 18e avec des tout petits escaliers. Et en fait, au fur et à mesure, eh bien, la personne s'est désocialisée parce qu'elle n'avait pas sa mobilité. Et elle a été ça a été un sujet pour... Alors, ensuite, il a fallu quand même qu'on essaye de comprendre la question qui nous était posée sur le territoire. On s'est rendu compte avec nos centenaires qu'on fêtait à la fois en hébergement mais aussi à domicile que cette espérance de vie sans incapacité eh bien, c'était finalement un élément, un indicateur très important pour nous sur lequel il fallait qu'on travaille. C'est qu'on voulait comprendre quelles étaient les conditions de cette vie en bonne santé. Et vous voyez que donc l'OMS nous donne les chiffres pour 2015 et on rejoint les chiffres qui nous ont été donnés tout à l'heure. Le deuxième point sur lequel on s'est appuyé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait en fait deux grilles d'analyse. La grille de l'OMS, qui est la classification internationale des maladies, des pathologies. Mais il n'y a pas que l'aspect pathologique. Et à côté de la grille agir, bien sûr, qui est celle vraiment de la dépendance, en fait, on a une classification qui est extrêmement intéressante et que je vous invite à regarder de plus près. C'est la classification de Wood, qui mesure la place de l'environnement dans la classification des déficiences, des capacités et des avantages. On retrouve le secteur du handicap avec cette analyse-là, c'est-à-dire la question en quoi l'environnement est source ou générateur de dépendance ou d'une évolution vers la dépendance. Et ça, pour un élu local, c'est le point d'accroche parce que ça nous a paru très important d'aller plus loin dans cette interrogation-là. Alors, on s'est rendu compte que l'OMS avait déjà bien travaillé depuis 10 ans sur le sujet, puisqu'en fait, dès 2006, elle a rassemblé déjà 33 villes de 22 pays différents. Donc, vous voyez bien qu'on est sur un bassin de vie, une notion de proximité, de territoire, et que ce sont les villes qui sont finalement les premiers réceptacles de cette problématique-là. Et il y a une espèce d'émulation motivée par l'OMS demandant justement à ces villes de déterminer les facteurs environnement d'un vieillissement en bonne santé. Là, on a repris la littérature. Je ne vous apprends rien. On les connaît, ces facteurs-là. Ils sont là. Le rester chez soi, c'est quoi? C'est tout simplement une aspiration à rester dans ses repères, dans son histoire, et de projeter son futur dans cette histoire-là. Et là, on s'est rendu compte que la collectivité locale, finalement, elle était déterminante dans cet aspect-là, parce que on était sur la notion de cadre de vie. La notion de cadre de vie, on le liste dans l'article, en fait, on couvre toute l'activité citoyenne. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les familles, bien sûr, étaient les premières de cet environnement de cadre de vie, mais après, il y avait le commerçant. On sait très bien, nous, que le boulanger et le pharmacien sont les deux acteurs locaux de proximité qui sont partie prenante à ce cadre de vie. Ensuite, c'est plus largement, quand on élargit le cadre de vie, eh bien ça peut être, les services administratifs, les services culturels, justement la famille ou les proches auprès de qui on a envie de se rendre, les transports en commun. Une chose très importante qui nous a été aussi mise en lumière, c'est la sécurité dans le milieu urbain. Une personne âgée, elle est plus vulnérable, elle est donc la cible soit d'escrocs au téléphone, soit dans les distributeurs automatiques, soit même physiquement. Et on a, comme toutes les villes, rencontré ces difficultés. Donc la police municipale, est également impliquée dans notre affaire. Et puis après, on a toute la chaîne de soins, les établissements, les services à domicile ou les services médico-sociaux ou sanitaires. Donc, le rester chez soi, on s'est rendu compte que finalement, cette notion du rester chez soi, c'était, je vous cite une citation de Michel Billet qui a beaucoup réfléchi sur cet aspect-là. Et j'ai trouvé que, enfin, vous le verrez dans l'article si vous, vous prenez l'ouvrage, mais vous verrez que cette notion de rester chez soi, en fait, c'est bien une inspiration à avoir cet espace privé de familiarité qui, quand on vieillit, se réduit progressivement au périmètre seul du lit. Il a une très belle phrase dans laquelle il dit, et à la fin, c'est le lieu de toutes les énergies déployées par les professionnels pour vous amener à continuer à vivre, et qu'entre la porte de sortie n'est pas la mort, c'est une porte d'entrée qui prend le nom très technocratique d'EHPAD. Et là, on s'est bien rendu compte que cette notion d'espace, de liberté, de familiarité et privée, eh bien, c'était vraiment quelque chose sur lequel il fallait qu'on travaille. Alors ensuite, ne pas être isolé. Je vais accélérer un petit peu parce que ce sont les trois facteurs. Ne pas être isolé, là, les chiffres sont clairs. Moins de 4 relations différentes par semaine, c'est une descente vers l'isolement et donc, en creux, une démarche vers la perte d'autonomie. Il faut être en interaction sociale pour pouvoir préserver son empowerment et son autonomie. Ensuite, accéder facilement aux soins, c'est tout simplement pouvoir accéder à tous ces établissements et services du secteur sanitaire et médico-social. Là, un point de vigilance des élus locaux, c'est dire attention, on nous parle tous du virage ambulatoire avec des séjours hospitaliers dans lesquels on dit maintenant c'est un hôpital de jour, vous y allez 24 heures puis vous revenez chez vous. Quand vous avez une fracture du col du fémur et que vous devez revenir chez vous alors qu'il n'y a plus personne à la maison, eh bien vous savez que vous êtes en train de provoquer une descente vers la perte d'autonomie et la dépendance. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une demande très forte de la population, des citoyens. Je parle toujours de mon point de vue d'élu local, en disant, mais finalement, il y a des comités d'usagers de toutes parts qui disent, mais nous, on n'est pas satisfaits de ci, on est... L'élu local, c'est la première porte d'entrée. Hein. Le maire, c'est celui qui, auprès de qui on vient se plaindre. Des personnels dans les établissements qui parlaient beaucoup de souffrance, de burn-out, de risques psychosociaux, et puis des familles, et là, nous, on gère un EHPAD, les familles qui explosent, tout simplement, et le dessin qui vous a été présenté, moi, je le vis au quotidien. Des aides-soignantes qui sont obligées d'arbitrer entre les enfants qui ne sont pas d'accord sur l'offre de soins que l'on doit administrer à leurs proches. Et donc, on constate quoi, nous, sur le terrain ? C'est que finalement, on a du non-recours, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas chercher l'APA, qui ne vont pas solliciter les aides qui sont à la disposition dans le dispositif français, et, ce que je vous disais tout à l'heure, un Diogène qui augmente. Et ça, c'est vraiment un indicateur source d'inquiétude. Alors, on a regardé un petit peu comment, à partir de notre EHPAD, on pouvait faire évoluer les choses. On s'est rendu compte que finalement, l'organisation réglementaire et budgétaire actuelle, avec ses établissements médico-sociaux et sanitaires complètement en silo, le domicile, l'hébergement, le centre d'accueil de jour, la dotation soins, la dotation hébergement, la dotation dépendance, enfin toute cette complexité administrative et budgétaire, eh bien, n'était pas du tout favorable à accompagner tout simplement des parcours de vie dans un bassin de vie. Et là, on s'est dit, à ce moment-là, il va falloir quand même qu'on innove, qu'on réfléchisse à quelque chose d'un petit peu plus avancé. On est allé voir les salariés qui travaillaient sur un SIAD et sur un EHPAD. Et on leur a dit, ça c'est une petite anecdote, mais je ne peux pas m'empêcher de vous la dire, c'est que j'avais des aides-soignantes, celles qui travaillaient à l'EHPAD et celles qui travaillaient au SIAD. Je leur dis, on est bien d'accord, vous avez le même diplôme. Oui, madame. On est bien d'accord, vous avez la même formation. Oui, madame. On est bien d'accord, vous occupez des mêmes personnes. Oui, madame. Donc, on est bien d'accord, vous faites le même métier. Ah, mais pas du tout, madame. À partir de cette réponse-là, en fait, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que vous nous dites que vous ne faites pas le même métier ? Et là, on voyait bien que les professionnels qui étaient au domicile ou qui étaient en hébergement avaient une posture vis-à-vis de la personne qui s'accompagnait qui était radicalement différente. Dans un cas, ils étaient l'obligé de la personne, ils rentraient dans son espace privé, donc dans son parcours à lui, et quand il était en hébergement, c'était la personne qui devait s'adapter à la structure et c'était la personne accueillie qui était obligée. Et là, on a fait une révolution culturelle. Il fallait dire à toutes les aides-soignantes, je suis désolée, quel que soit le toit qu'a la personne sur la tête, eh bien, elle reste Madame Dupont, et ce n'est pas parce qu'elle a passé la porte de l'EHPAD qu'elle n'a pas toujours son histoire, toujours ses habitudes, et voilà. Donc, il a fallu articuler les métiers, et là, il fallait articuler les métiers au sein du secteur sanitaire et médico-social, mais également avec les bénévoles. On a beaucoup de familles, à Versailles, beaucoup de bénévoles qui interviennent. Comment on articule tous ces positionnements ? Et ça, ça a été vraiment un gros travail de réflexion. Il fallait qu'on anticipe l'évolution des besoins. Et alors, ça nous a conduit à quoi ? Eh bien, ça nous a conduit à innover. Et on s'est dit, il nous faut un outil juridique pour essayer de mettre tout le monde autour de la table, quelle que soit son entrée autour de la personne âgée, qu'il soit bénévole, qu'il soit famille, qu'il soit salarié, qu'il soit soignant, professionnel soignant ou professionnel de l'accompagnement, qu'il soit financeur, ou qu'il soit dans la réglementation. Et là, voilà, je suis finie. Et là, attendez. Oui. Et là, donc, nous avons créé une société coopérative d'intérêt collectif. Alors ça, c'est l'outil juridique que nous avons retenu. La particularité de cet outil-là, c'est que tout le monde est autour de la table, un homme, une voix. Les salariés au même titre que les familles, que les résidents, que les bénévoles, que les partenaires financiers. Alors, on avait une préoccupation, l'EHPAD était anciennement géré par le CCAS de la ville de Versailles. On était donc naturellement fondé à avoir des places habilitées à l'aide sociale, c'est-à-dire que le département finance pour le compte de la famille quand la personne et la famille ne peuvent pas financer. Donc il fallait absolument que notre société coopérative, qui est une société commerciale, enfin société anonyme, hein, capitaliste, soit garant, et le CCAS devait être garant en créant cette société coopérative d'une limitation du reste à charge. Alors aussi, comment on fait cet équilibre économique quand vous voyez les autres secteurs du secteur marchand avec des actionnaires et puis des dividendes et tout ça, comment on construit cette affaire-là? Eh bien, on s'est dit, il va falloir qu'on fasse appel à un financement qui va être un financement qui va répondre à l'idée du citoyen qui est dans son bassin de vie. Et c'est là où on est allé chercher de l'épargne solidaire. Alors, en deux mots, la société coopérative, elle a des fonds propres, 5 millions de fonds propres, et là où on est très très heureux de cette aspiration, c'est que les fonds propres sont issus d'une part de l'épargne solidaire. Vous pouvez, quand vous avez un peu d'argent à placer, au lieu de le placer dans une entreprise avec des dividendes, là, les personnes le placent dans ce projet-là, il n'y a pas de dividendes, leur capital est garanti, ils sont obligés de le laisser pendant 5 ans, mais cet argent-là sert au fonds propre de la structure. L'autre partie, c'est le CCAS de la ville de Versailles, qui en tant que fonds public garant de ce reste à charge, dit, moi je vais mettre une partie de fonds dans ce capital-là. Ça n'a pas été simple, hein, je peux vous dire, pour les commissaires aux comptes, les experts comptables et les juristes, c'était quand même un peu une aventure, cette affaire-là. Et puis, le dernier point, c'était les tutelles. Les tutelles, finalement, l'ARS et le département, et c'est la raison pour laquelle je vous ai mis un contexte d'ouverture, les tutelles se sont dit, là, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille parce qu'on pense que c'est un modèle pardon, qui est à soutenir parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se créer. Et la CNSA, bien sûr, nous a accompagnés. Il fallait absolument que nos professionnels, et là, ça fera la transition avec l'intervention suivante, je suppose, puisque, en fait, toute la question, c'est comment chacun, dans son métier, dans son entrée, dans son regard qu'il pose sur la personne âgée, va être respecté dans son savoir-faire, dans son expertise, tout en étant amené à bien comprendre le rôle de l'autre et comment il va pouvoir se positionner par rapport à l'autre. Qu'est-ce que ça a demandé, donc ? Vous imaginez bien. Un niveau d'élévation des compétences collectives, d'abord juridique, parce qu'il fallait trouver un juriste qui comprenne la logique publique et la logique privée. Économique, parce que l'épargne solidaire, c'est un nouveau modèle. Voilà, et fiscal, parce que c'est l'économie du bien commun. Et c'est défiscalisé. Une conclusion, le vieillissement, on a essayé de mettre en lumière le fait que c'était l'affaire de tous. Et en galéjade, on dit, finalement, on est tous le vieux d'un autre. Et quoi qu'on veuille, c'est comme ça. Ensuite, ne pas avoir peur. Pourquoi ? Parce que, finalement, le modèle économique à explorer, qui est l'épargne solidaire, pourrait très bien nous aider à financer des nouvelles technologies, de la recherche. Je rêve, par exemple, d'une cabine 3D dans laquelle la personne âgée pourrait rentrer et faire le chemin des braconniers corses, parce que dans sa jeunesse, elle faisait ce... Vous voyez, on pourrait très bien imaginer qu'au lieu de... Le monde vienne dans les EHPAD ou dans les endroits où on est empêché. Et donc, à trois conditions, c'est que la personne accompagnée, sa liberté soit respectée en permanence, qu'on doit tous avoir en tête le fait que sa liberté doit être préservée, quel que soit l'endroit et l'environnement, le cadre de vie qui est le sien, qui est une solidarité économique envers le plus vulnérable, et c'est d'où l'intérêt de réfléchir à ce reste à charge et comment est-ce qu'on équilibre tout ça. Et ensuite, vraiment une injonction à ce que les professionnels coopèrent entre eux, et ça veut dire de la formation. Et il faut vraiment que l'ensemble du secteur monte en compétence sur eh bien, les savoirs professionnels et puis les savoirs coopératifs. Voilà, pour nous, c'est une injonction éthique collective et c'est donc une aventure dans laquelle il y a progressivement de plus en plus de personnes qui ont envie de coopérer. Une belle phrase d'Aragon, finalement, c'est l'illustration du rester chez soi, exercice suprême de liberté qui ne peut trouver son achèvement qu'au corpuscule de notre vie, c'est-à-dire tout cet environnement qui nous accompagne justement dans l'exercice suprême de cette liberté. Comme je vous disais, un article dans l'ouvrage qui résume tout ça, vous voyez, je dis ça de manière beaucoup trop courte, mais on a essayé de l'écrire, grâce d'ailleurs à Sébastien Père, et puis si vous voulez en savoir plus, on a mis nos coordonnées pour vous décrire l'aventure dans laquelle nous sommes engagés. Merci.
Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là et de rester jusqu'au bout. Alors je viens d'apprendre que j'ai exactement 4 minutes pour vous faire l'exposé qui était prévu en une demi-heure, donc on va aller vite, hein. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Moi, je suis donc maître de conférence de sociologie à l'Université de Paris 13. Je forme de futurs travailleurs sociaux, dont justement les encadrants de proximité, hein, les cadres intermédiaires, pour pouvoir justement gérer les multiples professionnels qui interviennent au domicile. Je suis par ailleurs attachée à un laboratoire, l'IRIS, qui s'intéresse particulièrement aux fragilités et aux politiques sociales. Et donc, moi, je m'intéresse bien sûr aux travailleurs sociaux d'une façon générale, aux intervenants sociaux, et plus spécifiquement aux personnes vulnérables, c'est-à-dire en risque de. Et donc, vous voyez bien que notre population de personnes âgées correspond tout à fait à ce critère-là, puisque même si on est en forme, on est en risque d'être pris en charge, en risque de se dégrader, etc. Donc l'encadrement de proximité, juste une petite définition, c'est un maillon structurant de ce secteur qui organise et coordonne l'activité de l'aide à domicile, contribue à l'amélioration des qualités des services et à l'interface justement entre des salariés et des demandeurs. Donc méthodologie très rapidement, moi ce qui m'a intéressé c'est de comparer ce qu'il en était de ses compétences, d'une part du côté des formations, hein, sur quelle visée les enseignants, les chercheurs, les professionnels s'attardaient pour pouvoir les rendre compétents pour intervenir justement dans la gestion de cette coordination des personnes à domicile et de le mettre en parallèle avec des compétences de professionnels sur le terrain. Et donc, vous allez voir, hein, c'est l'objet de mon intervention, qu'il y a des grands décalages à penser et à combler pour pouvoir ajuster justement les compétences. Donc, exposé en trois parties, donc rapidement, les réalités du secteur, justement, pour comprendre comment les professionnels du travail social et de l'intervention sociale répondent à la question sociale. Je n'aurai pas le temps de développer, mais bon, si vous avez des questions, on laissera un petit temps pour le débat pour développer. Les compétences de l'encadrement de proximité, justement, entre le programme pédagogique de l'université et les réalités de terrain et les perspectives d'évolution, d'une part pour la formation et d'autre part pour cet emploi. Donc, la complexité du secteur du service à la personne, là, je vais très vite parce que Sébastien en a parlé. Hein, donc, voilà, il y a des décrets, trois formes d'emploi qui existent entre les emplois directs, les mandataires et les prestataires. Et puis quelques chiffres, là je ne reviens pas parce qu'en plus Sébastien a des données encore plus récentes que les miennes, mais en tout cas vous voyez bien que c'est un secteur qui explose avec plus de 5000 structures donc en 2016 et avec justement 433 000 intervenants employés par des organismes prestataires. Donc vous voyez, c'est vraiment un gros secteur. Et puis cette notion de compétence qui se définit, et c'est là où je vais en venir, entre l'acquisition de savoir. Et pour aller vite, je les discerne là aujourd'hui entre savoir théorique, savoir-faire, savoir-être. Vous allez voir que ça, c'est très, très important pour l'ensemble des professionnels. Donc, les transformations de compétences pour les professionnels de l'action sociale. Alors, là aussi, très vite, hein, de la charité au service de confort. Ces services, ces savoirs définis pour les services à la personne se définissent comme suit. Donc, dont une partie, notamment les activités d'assistance auprès de personnes fragiles, relève clairement du champ de l'intervention sociale. Donc là, clairement, on est dans l'assistance à autrui, dans l'accompagnement de la personne, alors qu'une autre partie, et notamment les services d'aide ou de confort offerts aux ménages, relève de logiques plus commerciales. Et là, en tant que sociologue, ça m'a beaucoup intéressée parce qu'on voit bien que là, on a une diversification des activités. Donc les compétences, je vais aller très vite, j'ai vraiment pas le temps, mais j'aimerais bien qu'on discute davantage sur les compétences de terrain, hein, du travail social à l'intervention sociale. Donc très rapidement, les métiers dits canoniques, hein, c'est les métiers du travail social, assistant de service social, éducateur, animateur, qui vont être complétés à partir des années 80 par une multiplicité d'acteurs très différents, plutôt diplômés avec des diplômes universitaires, qui vont avoir une vision de l'action sociale plus polyvalente et plus globale. Dans cette logique, on va avoir les nouveaux métiers du social, par exemple les gestionnaires du urbain et récemment le service à la personne. Donc on voit là qu'il y a un parallèle entre ces professionnels qui voient le jour, entre guillemets, et l'évolution de la question sociale. Et là, très rapidement, hein, on peut, en tout cas c'est l'idée que je développe dans quelques articles, ou même dans l'article de cet ouvrage, on change de triptyque, hein, le triptyque des années des 30 Glorieuses, assister, éduquer, animer, et on passe à gérer, aider, soigner. Au-delà, et quoi qu'il en soit, on voit bien là une préoccupation majeure des publics prioritaires à aider et à soutenir. Les compétences, c'est totalement illisible. Mon tableau, c'est toujours comme ça avec le PowerPoint, donc c'est pas grave, je reste sur l'essentiel. Donc, vous voyez bien que tout à fait à droite, c'est service à la personne. J'arrive par ici. Et en fait, les trois activités essentielles se retrouvent là, appropriation de l'environnement, identification des besoins, mise en place d'un projet adapté à la personne. C'est vraiment ce que l'on attend comme compétence du côté de la formation des professionnels du service à la personne. Point commun entre toutes ces... Ah oui, j'ai peut-être été un peu trop vite du coup. Vous voyez bien qu'en haut, c'est les différents types d'options de services de professionnels de l'action sociale, les animateurs, les assistants de services sociaux, les éducateurs, les gestionnaires urbains et enfin, service à la personne. Ce qui m'a intéressé, c'est de faire le point commun entre ces différents types de compétences. Et l'idée, c'est effectivement, et en tout cas, c'est vraiment là-dessus que j'insiste beaucoup moi personnellement, c'est que tous s'inscrivent dans des interventions sociale, dans un cadre éthique et déontologique, avec l'idée de prendre soin de l'autre, hein, cette notion de care, prendre soin de l'autre, ça c'est très important. Il s'agit bien de service à la personne et non du secteur de service à domicile. Donc l'aide envers les personnes humaines est essentielle. Partie 2 de mon exposé, là aussi je vais très vite, on aura un peu de temps pour les questions j'espère. Les compétences donc d'appropriation de l'environnement, 2 minutes, c'est horrible. Donc voilà, on voit le décalage, je vais très vite, mais il y a un décalage entre la formation initiale où on invite les étudiants à penser le secteur d'intervention professionnelle avec une connaissance de secteur, hein, de tout ce qui peut se passer dans le secteur de service à la personne, alors qu'au niveau professionnel, les professionnels insistent sur l'idée de le territoire d'intervention, avec évidemment du partenariat, on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Les compétences d'identification des besoins, eh bien là aussi, c'est essentiellement les personnes âgées vivant à leur domicile, 80% de la clientèle, alors qu'en formation initiale, on insiste sur l'ensemble des publics, y compris les personnes en situation de handicap, les enfants, etc. Et puis, le service adapté à la personne, du bénéficiaire à l'entourage, là aussi, j'insiste beaucoup, parce que prendre en charge, intervenir à domicile, c'est soutenir l'ensemble de la structure et parfois les aidants, vous savez ça aussi bien que moi, voire mieux, pour certains d'entre vous, sont plus encore à prendre et à soutenir, à prendre en charge que la personne âgée elle-même. Partie 3, donc les perspectives d'évolution de compétences des encadrants de proximité, ça se fait à 2 niveaux, me semble-t-il. Au niveau des apprentissages à développer dans la formation, alors je parle surtout de la formation initiale, je pourrais parler de la formation continue si vous le souhaitez pour développer ça, et d'autre part, une posture professionnelle à affirmer en termes de management et d'appartenance au champ de l'intervention sociale. Donc, au niveau du diplôme universitaire de technologie, il y a 3 niveaux. Hein, d'abord, d'élargir les connaissances, notamment sur les personnes âgées. On a revu les chiffres tout à l'heure. Hein, c'est vraiment une population qui explose en termes quantitatifs et qui est à prendre en charge. Donc, d'autre part, élargir les savoirs sur les nouvelles technologies. On en parle très, très peu en formation. C'est dommage. C'est vraiment quelque chose à développer parce qu'il y a des choses extraordinaires. Enfin, plutôt dans le salon, on voit bien hein, qu'il y a des choses qui se passent là, à ce niveau-là. Et 3e point, élargir les savoirs et de fait les compétences en termes de management et de soutien relationnel pour l'ensemble des acteurs. Hein, bien sûr, des publics, mais de l'autre côté aussi des équipes de professionnels. Et je pense plus spécifiquement aux intervenants à domicile. Hein. Perspective d'évolution du poste d'encadrant maintenant et pour finir, donc là aussi à trois niveaux, posture éthique et déontologique dans ce secteur, pour ce secteur, hein, au service de ce secteur. Les contextes modernes obligent à mieux articuler les complémentarités entre social et gestion. Vous avez autour de la table des enseignants-chercheurs complémentaires et ce n'est pas un hasard. Je crois qu'effectivement, il faut qu'on pense notre complémentarité, de même que les professionnels de terrain pensent les leurs, hein, leur complémentarité. Nous aussi, on a à travailler dans une meilleure coordination entre gestion, évidemment, et social. Et on peut penser, en tout cas, c'est des pistes de réflexion sur l'éthique de la relation commerciale. Perspective du poste d'encadrement suite et fin. Donc, posture du management communicationnel, c'est Éric Bertrand qui évoque ça. Et puis, une réflexion sur les perspectives d'évolution de carrière pour tous les professionnels de ce secteur. En conclusion, déjà, et pour finir, donc, la construction socio-historique de l'aide sociale française a métamorphosé le soutien aux plus fragiles, de l'assistance à l'aide à la personne. Le diplôme universitaire dans cette mouvance-là a pris forme et la convention collective et les réalités d'intervention sociale et professionnelle, on vient d'en voir un exemple juste avant, prennent forme dans ces contextes. Donc, en conclusion, vraiment, c'est des perspectives à continuer à réfléchir ensemble. Le rôle pivot, me semble-t-il, des encadrants de proximité, parce que justement, ils sont à l'intermédiaire, à l'interface entre des publics d'une part et des professionnels qui interviennent au domicile, dans un principe d'équité et de bien-traitance pour tous, permettant de passer de la silver economy, bien sûr, au service à la personne. Je vous remercie, et puis, vous trouverez tout ça dans l'ouvrage très complémentaire. Donc, je vais très vite, mais il faut laisser du temps pour les questions. Donc, à vous la parole. Merci.
Bonjour. J'avais une question j'étais curieuse de votre expérience, madame, en tant qu'élue. Dans votre société coopérative, dont je n'ai pas bien retenu le nom, est-ce que vous intégrez aussi, vous avez beaucoup parlé de l'EHPAD, et est-ce que vous avez intégré d'autres services dans cette... C'est ça ce que je n'ai pas bien suivi.
Oui, au départ, en fait, on gérait un service de soins infirmiers à domicile et l'EHPAD. On est parti de ça. Et en fait, on s'est interrogé sur deux compléments. Une équipe ESA, donc équipe spécialisée Alzheimer, parce que voilà, la problématique Alzheimer a été la première problématique qu'on a rencontrée. Et la deuxième, c'était tous les soutiens pour le domicile, pour les aidants. Et on est en train de réfléchir à un accueil temporaire de nuit. C'est compliqué, c'est très très compliqué à mettre en place, mais on est en train d'y réfléchir. Une plateforme de mobilité solidaire, et là, c'est un peu... C'est pas très correct de dire ça, mais c'est un peu le Uber senior, c'est-à-dire une forme d'entraide, de proximité sur la question de la mobilité. Voilà, on est en train de travailler ça. On a fait un travail de recherche sur le jardin thérapeutique avec un multi-accueil à côté des tout-petits et un espace qui est vraiment dévolu aux personnes de la ville qui sont plutôt des seniors, qui ont envie de transmettre des savoirs horticoles. Et on sait, on a travaillé avec la Fondation Médéric Alzheimer, où on sait que l'horticulture peut être une hortithérapie. Et donc, on va essayer de voir si on peut, avec les tutelles, faire une expérimentation, d'avoir un hortithérapeute, et on travaillerait en citoyenneté et en intergénérationnel sur cet outil que serait le jardin, et qui serait le jardin plutôt des seniors, mis à la disposition des autres populations. Enfin, bref, on a des tas de projets de recherche, de développement, et on ne peut le faire que parce que on a ces fonds propres et ces capitaux qui nous permettent d'aller explorer des nouvelles technologies, des nouvelles formes en fait, de réponses.
Pour rebondir sur votre dernier commentaire, il y a beaucoup de technologies qui sont exposées dans le salon. Et est-ce qu'il y a des technologies qui vous sont apparentes, enfin qui sont nécessaires et qui manquent aujourd'hui, de votre point de vue?
Non, mais j'ai plein de rêves, moi, si vous voulez vraiment. Vous dire. Il y a une technologie qu'il faut absolument investir de manière beaucoup massive, c'est la technologie du lien. Quand je vois ces personnes âgées qui ont... Alors, à Versailles, on a de la chance, on a pas mal de jeunes étudiants Erasmus. Ben, les petits-enfants qui sont en Europe ou à Hong Kong ou en Australie et qui sont sur Skype avec leur grand-mère et qui leur font visiter l'Australie, les kangourous et tout ça, pour la grand-mère, vous pouvez, alors qu'elle, elle n'a que des souvenirs qui sont plutôt des souvenirs malheureux. Hein, leur histoire, quand je fête les centenaires, elle nous parle plus de la guerre que de cette ouverture au monde. Et pourtant, leurs petits-enfants les projettent dans le monde. Et finalement, elles peuvent être vraiment projetées. Et investir Skype à domicile ou dans les établissements, à mon avis, c'est une véritable opportunité pour tout le monde. Pour tout le monde, parce que ce qui est très intéressant dans cette relation aussi, c'est que les anciens vont être capables de prévenir des écueils que eux voient à l'image de leur expérience et vont transmettre en fait aux jeunes qui sont tous émerveillés par ce monde qui s'ouvre à eux, toute cette nouvelle anthropologie. Et ce qui est étonnant, c'est que les anciens vont avoir un regard à la fois émerveillé, mais plus distancié, plus sage. Et là, on va voir s'exprimer une relation de sagesse et d'intergénération. Donc l'image au service du lien, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut investir collectivement. Voilà, mon rêve, c'est cette image 3D où je pourrais mettre dans mon fauteuil roulant Madame Dupont que j'accompagne et qui me dirait j'ai envie d'aller marcher sur le chemin des braconniers au fin fond de la Corse et qu'on puisse lui donner ce plaisir-là de revenir à toutes ses histoires, de toute sa mémoire. Le jardin aussi a cette vocation-là. On sait très bien que la plasticité neuronale est ravivée grâce à la manière dont on a stocké nos émotions, nos informations, dans les émotions qui étaient corrélées à la réception de ces informations-là. On peut restituer, enfin, redonner cette capacité neuronale quand on utilise l'émotion et la sensorialité, peut-être un vecteur, et aller chercher la sensorialité comme un outil de remédiation cognitive, c'est un autre champ d'exploration qu'il ne faut surtout pas s'interdire d'investir. J'avais juste un exemple à vous donner. Oui, extraordinaire. Une anecdote. Il faut qu'on parte, mais une anecdote extraordinaire. On a un parcours culturel très très important à Versailles et donc on a des accords avec le château où des personnes qui sont au centre d'accueil de jour à la consultation mémoire ont un parcours spécialisé Alzheimer. Des gens qui sont complètement désorientés. Un monsieur appartient à un groupe, commence à faire le parcours qui a été étudié vraiment par des professionnels du retard cognitif, de l'altération cognitive. Et ce monsieur-là, au début, il était complètement le dos tourné au groupe, aux œuvres. Il était totalement hermétique à tout ça. Le parcours avance progressivement. Il se retourne vers les œuvres, s'en approche. À un moment, il se met sur un banc. Vous savez, ces bancs des musées, il pose vraiment, il s'assoit délicatement, mais vraiment sur l'extrémité. Au décours du parcours, il se rapproche. Dernier tableau, il se lève. Il tourne le dos au tableau et il fait une heure et demie de cours d'histoire culturelle sur l'œuvre parce qu'en fait, il lui avait fallu tout ce temps-là pour que ce cerveau se remette en route. Il était professeur d'histoire de l'art. Et donc, ce cheminement qui avait été accompagné par ces professionnels qu'il connaissait très bien a conduit à ce que cet homme-là a retrouvé complètement, finalement, sa citoyenneté et surtout... Après ça, les personnes qui l'accompagnaient, les bénévoles et les professionnels, ont posé un regard sur lui qui était totalement transformé. D'où cette importance aussi d'allier les compétences des professionnels, des scientifiques et de l'accompagnement. Il y a une expertise de l'accompagnement, il y a une expertise scientifique. Et il faut que les nouvelles technologies s'emparent de cette double expertise pour faire des propositions d'innovation qui ne sont plus du tout dans les schémas actuels, mais qui vont nous ouvrir des horizons. Et il faut faire confiance à la jeunesse, parce que je pense que elles ont cette jeunesse, elle voit le monde complètement différemment de nous, et il ne faut pas avoir peur de la manière dont elle nous présente le monde.
Alors, on vous renvoie l'ouvrage. Il y avait une librairie qui était la librairie Le Divan à Paris, qui peut vous montrer la référence. Donc, voilà. C'est avec l'ouvrage ici, vous pouvez l'avoir en ligne. Et il y a une autre présentation sur toute une matinée qui se fera à Cédia, c'est le 29 novembre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir. Merci à vous, bonne soirée. Merci.